Qualité du climat est un bien collectif, un bien public, public good, dit-on en anglais. Chacun en a sa part et tous l'ont tout entier. C'est la définition de Victor Hugo, qui en l'occurrence évoquait l'amour d'une mère pour ses enfants. Cet amour maternel est aussi pour les économistes un bien collectif, mais dans notre jargon, c'est un bien collectif ou public local. Il concerne une communauté, la famille, bien localisée, de faible taille. À l'inverse, la qualité du climat, dès lors qu'il fait sens de l'appréhender à l'échelle du monde, est associée à un bien collectif global ou bien mondial. Et ce qui met en cause la qualité du climat, c'est-à-dire aujourd'hui l'accroissement de la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre, est non pas un bien public, mais son contraire, un mal public. Les économistes disent aussi une externalité, et une externalité négative, ou un mal public global ou mondial lui aussi. En effet, toute molécule de gaz carbonique, qu'elle soit émise de Paris ou de Singapour, diffuse dans l'atmosphère et contribue également à l'accroissement de la concentration atmosphérique en dioxyde de carbone, qui est passé de 270 parties par million en volume avant l'ère industrielle à 370-380 parties par million en volume au début du XXIe siècle, et qui pourrait atteindre deux ou trois fois la concentration pré-industrielle à la fin de ce siècle. Alors, le marché qui fournit des signaux souvent appropriés pour la production de biens privés n'est pas directement adapté à la fourniture de biens collectifs, ou encore moins à l'évitement des externalités négatives. Dans les manuels d'économie, biens collectifs et externalités sont traités comme des catégories successives de ce qu'on appelle des défaillances de marché. Et au début de son rapport qui a été très médiatisé, Sir Nicholas Stern souligne vigoureusement que l'accroissement de la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre, donc qui est à l'origine de dérèglements climatiques déjà observés et de ceux plus redoutables qui sont anticipés, est, je cite, « la plus spectaculaire défaillance du marché jamais enregistrée ». Alors, si j'ai introduit ici une terminologie qui est familière aux économistes, mais quelque peu technique, et qui mériterait d'ailleurs plus longue discussion, c'est pour souligner que la conception économique des politiques climatiques, qui est donc à l'arrière-plan des problèmes de gouvernance que je veux traiter ici, s'inscrit dans le cadre d'une réflexion traditionnelle, tout en soulignant aussitôt que les dimensions du problème, c'est-à-dire sa dimension spatiale, mais aussi sa dimension temporelle, conduisent soit à utiliser les schémas traditionnels à leurs limites, soit à faire éclater leur cadre. Donc l'économiste fait donc face ici à toute une série de problèmes qui sont intellectuellement inédits pour résoudre une question réelle qui, elle aussi, est complètement inédite. La question de la conception économique des politiques climatiques a en fait deux grands chapitres qu'on peut distinguer pour la commodité. Le premier est celui de la stratégie de la politique climatique et le second est celui de la conception de ces institutions. Alors, sous le terme stratégie de la politique climatique, je mets la question de son intensité, c'est-à-dire de l'importance des réductions d'émissions à viser, de son rythme, c'est-à-dire du déploiement temporel de l'effort de réduction. Quand faut-il commencer? Faut-il accroître l'effort progressivement ou faire immédiatement le maximum, etc. La question des institutions est-elle celle des meilleures modalités de mise en place d'une coopération qui, pour être efficace, doit être mondiale? Et derrière ces questions, on mettra dans une perspective, on verra que se met dans une perspective, comme j'ai dit tout à l'heure, inédite des questions traditionnelles de la politique environnementale, quel rôle respectif pour la réglementation, pour les prix, pour les quantités. Je ne ferai qu'évoquer le premier de ces sujets, la stratégie de la politique climatique, D'abord pour dire que le principe de précaution ne nous aide pas considérablement à la définir. Hein. Le principe de précaution, je prends la formulation qui est celle de la loi Barnier, nous dit que l'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de politiques proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement. Alors, sauf à y voir un commandement intégriste et intenable de cesser immédiatement toute émission, ou une invite moins brutale mais toujours relativement intenable de stabiliser la concentration au niveau actuel, le principe ne nous éclaire pas considérablement, et il est d'autant moins affirmatif que l'énoncé exhaustif de la loi Barnier ajoute cette précision à coût économique acceptable. Donc il faut donc adopter des politiques proportionnées à coût économique acceptable. Donc la balle est renvoyée dans le camp de l'économiste, qui de toute façon l'aurait reprise, hein, et qui essaiera de mettre en balance les avantages et les coûts des politiques climatiques selon les règles d'un calcul économique généralisé, dont la Stern Review nous propose d'ailleurs un exemple tout à fait caractéristique et à bien des égards remarquable. J'en resterai là donc sur ce premier chapitre, non pas parce qu'il n'est pas intéressant, mais parce qu'il il justifierait en lui-même un exposé symétrique de celui que je vais faire, pour concentrer mon propos sur les institutions de la politique climatique, un sujet qui n'est pas complètement indépendant du précédent, mais qui en est largement distinct. La discussion sur les institutions nous renvoie bien sûr d'abord aux institutions et arrangements existants, en l'occurrence le protocole de Kyoto. Alors le protocole de Kyoto a trois caractéristiques, je pense, bien connues, mais sur lesquelles je peux revenir brièvement. Tout d'abord, première caractéristique, le protocole de Kyoto impose des engagements contraignants, mais n'impose des engagements contraignants qu'à un sous-ensemble de pays, hein, qui sont les pays riches et gros émetteurs, les pays de ce qu'on appelle l'annexe B. Deuxièmement, ces engagements sont des engagements quantitatifs, des engagements de limitation des émissions, prenant place sur la période 2008-2012, à un niveau qui est indexé sur le niveau d'émissions 1990, à peu près, on vise à peu près moins 5% du niveau 1990. Donc chacun des pays, considéré comme l'entité pertinente, se voit fixer un quota d'émissions. Troisième point, ces quotas sont négociables. Un pays qui réduit, comme l'a dit Lionel Sterre ce matin, mais je vais reprendre la mécanique rapidement, un pays qui réduit ses émissions au-delà de son quota pourra le transférer contre paiement à un pays dont les émissions excèdent le quota. Donc le protocole de Kyoto veut donc instaurer un marché international des permis d'émission à une vaste échelle, marché qui, jusque-là, a été expérimenté dans un petit nombre de cas et des échelles spatiales et économiques toutes différentes. Le cas le plus connu étant le marché de permis du dioxyde de soufre aux États-Unis à la fin des années 90. Ce rappel des caractéristiques de Kyoto appelle un certain nombre de remarques. Première remarque, le protocole de Kyoto, en dépit de sa logique uniformisatrice, c'est-à-dire objectif fixé dans tous les pays en fonction des émissions d'une année de base, impose des efforts assez différenciés aux pays participants. Le cas le plus flagrant est celui de la Russie. Après le démantèlement d'une partie de l'industrie lourde soviétique, les émissions ont chuté très en deçà de leur niveau 1990. Donc sans effort particulier, la Russie fera beaucoup mieux que le quota qui lui est imposé. Elle disposera donc de ce qu'on appelle dans le jargon de l'air chaud, entre guillemets, et sera en position d'offreur sur le marché de permis d'émission. D'où deux questions. Première question, comment la position d'offreur en quasi-situation de monopole de la Russie affectera-t-elle le fonctionnement du marché? Deuxième question, la ratification du protocole de Kyoto par la Russie, qui, au moins dans un premier temps, tirera certains bénéfices du réchauffement climatique. C'est discutable dans un second temps, c'est beaucoup plus douteux. Mais cette ratification a été grandement facilitée par le traitement particulier qu'elle a reçu. D'où l'interrogation, les quotas, plutôt qu'être uniformes, ne devraient-ils pas être différenciés pour traduire les différences de coûts supportées par les pays, d'une part, mais aussi, évidemment, les différences d'exposition au risque climatique. J'en viens à ma deuxième remarque. L'instauration d'un marché de permis d'émission, alors c'est une proposition qui avait été portée dans la négociation par les États-Unis, a fait l'objet de vives réticences initiales, en particulier de la part de l'Union européenne, qui en a finalement accepté la formule, avant d'ailleurs de s'en faire le héros, mais aussi et surtout de la part d'une partie des écologistes. La marchandisation de la nature, entre guillemets, qui en résultait était condamnée par principe, mais la formule était aussi accusée de permettre aux pollueurs riches, en l'occurrence les États-Unis, de s'exonérer à bon compte d'une partie de l'effort, donc péché contre l'éthique environnementale. Pourtant, il me semble que hors d'une vision intégriste de la défense de l'environnement et d'un refus de principe du marché, ces objections sont peu convaincantes. Utiliser les instruments économiques et l'action sur les prix pour atteindre un objectif environnemental dans une économie de marché est une condition d'efficacité. Le marché de permis permet que les efforts de réduction soient effectués là où leur coût est le plus faible. L'effort qui peut être imposé à tel ou tel pays dépend des conditions politiques de la négociation, de la bonne volonté du pays et non de la formule retenue. Un marché de droits d'émission ne permet aucunement de contraindre un pollueur qui n'en a pas envie, mais paradoxalement, il permettrait de lui faire accepter un objectif plus élevé que celui qu'il accepterait en absence de marché. Ma troisième remarque est que le protocole de Kyoto est, dans le jargon des économistes que j'ai évoqué tout à l'heure, une politique de quantité. Politique de quantité car la variable de contrôle est la quantité totale des émissions. Quelle que soit la manière dont les réductions sont effectuées, quels que soient les échanges de quotas entre les pays participants, et donc les efforts effectifs de chacun des pays en interne, ce qui va compter est la somme des émissions des pays participants et la somme des quotas qui leur est attribuée. Sauf évidemment échec grave du dispositif. En ce sens, une politique de quantité s'oppose à ce que les économistes appellent une politique de prix qui, par exemple, serait fondée sur la mise en place d'une taxe carbone harmonisée entre les pays participants. Une politique de quantité garantit en principe le résultat visé, mais le coût d'atteinte de l'objectif est, lui, initialement incertain. Une politique de prix, par exemple une taxe carbone mondiale fixée pour la période à un niveau bien défini, donne une bonne visibilité ex ante sur les coûts de la politique, du moins en principe, mais laisse dans le flou l'objectif de réduction d'émissions qui sera finalement atteint. À la suite du retrait des États-Unis du protocole de Kyoto, le débat sur les mérites respectifs des politiques de coûts et des politiques de quantité a été relancé. Un débat qui s'est joué, ironie de l'histoire, à front renversé. L'Europe, à l'initiative de la France, avait proposé dans les années 90 une taxation harmonisée que les États-Unis avaient alors refusée. L'architecture Kyoto doit-elle beaucoup, on l'a déjà dit, à l'influence américaine ? Kyoto adopté, mais récusé par les Américains, concentrera sur lui les critiques souvent venues d'outre-Atlantique, qui disent qu'une politique de quantité impose, dans un contexte de coûts incertains, un effort trop rigide, et qu'il faut lui préférer une taxation harmonisée du carbone à un niveau négocié mais fixe. Alors, il faut bien comprendre la nature du débat. Le protocole du Kyoto ne conduit pas à renoncer aux instruments économiques et aux prix. Tout au contraire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est conçu pour faire émerger un prix international du carbone qui servira de référence aux agents. Par ailleurs, il conduit à mettre en place soit une taxe carbone interne, dont par exemple ce qu'on a appelé dans le cadre du Grenelle de l'environnement la contribution. Taxe carbone interne, dont par exemple ce qu'on a appelé dans le cadre du Grenelle de l'environnement la contribution climat-énergie permettrait la concrétisation, du moins si on place le curseur surtout vers le facteur climat, soit des marchés de permis, et qui, dès lors que les quotas ne sont pas alloués gratuitement, engendrent des recettes de même nature que les recettes fiscales. Et donc, il n'est pas complètement différent de la taxe carbone standard. Mais les prix sur ces marchés, ou la taxe, en tout cas les prix sur les marchés de quotas, sont susceptibles de se fixer à des niveaux différents, alors que l'objectif de réduction est, lui, en principe, intangible. Au contraire, une fiscalité carbone harmonisée donnerait une sorte de valeur intangible à la taxe carbone. Alors, trois remarques sur ce débat. Première remarque, il est difficile pour un non-économiste, mais je dirais aussi pour un économiste parfois, de comprendre que le volume d'émissions ne soit pas la variable de contrôle des politiques climatiques, dès lors que nos connaissances sur le risque climatique l'associent à la concentration des gaz à effet de serre, laquelle dépend de l'accumulation des émissions. Pourtant, l'argumentaire de la supériorité des politiques de prix a un écho certain chez les économistes. Elle a été reprise, par exemple, récemment par Joseph Stiglitz, dont j'avais le plaisir de discuter la contribution il y a quelque temps à Paris, et qui revenait sur une proposition de taxe carbone. Alors, je vais redire ce que j'avais dit à ce moment-là. C'est-à-dire, je crois personnellement qu'une taxation harmonisée du carbone, sans encadrement des émissions, et alors, toute question de la définition et de la mise en place de l'harmonisation. Qu'est-ce qu'une taxe carbone harmonisée? À vrai dire, je ne suis pas sûr de très bien savoir, parce que à partir de quel niveau l'harmonise-t-on en France et aux États-Unis? Il y a des questions difficiles, mais toute cette question évacuée, je crois qu'une taxation harmonisée du carbone sans encadrement des émissions est une politique médiocre. Les mérites qui lui sont attribués sont susceptibles d'être mis en question par une analyse convenable des interactions entre, d'une part, la taxation du carbone et, d'autre part, le prix des carburants fossiles. C'est en effet la somme prix du pétrole à la source, je prends l'exemple du pétrole, plus taxe carbone, et non de la seule taxe carbone que défend la force du signal prix. Dans une univers statique, comme le savent les économistes, la taxation d'une ressource non renouvelable n'a aucun effet sur son prix final. Elle transfère simplement la rente des producteurs vers les pays consommateurs. Dans l'univers complexe où nous vivons, les effets d'une taxation du carbone sur le prix final du pétrole, par exemple, ou des autres carburants fossiles, sont difficiles à prévoir exactement, mais en tout état de cause, devraient dépendre de façon sensible et aussi de façon subtile des perspectives d'évolution temporelle de la taxe, et donc en particulier de la crédibilité de l'engagement initial. Contrairement à ce que dit une analyse théorique standard des prix contre les quantités, l'incertitude sur les coûts d'une politique de prix, quand on prend en compte ses effets sur le marché des carburants fossiles, est sans doute supérieure à celui d'une politique de quantité. Une architecture idéale pourrait cependant combiner une fiscalité harmonisée minimale, qui fixerait en quelque sorte un plancher à l'effort, et des objectifs de réduction allant au-delà de ce que permet d'espérer cette fiscalité, je dirais, basique, et dont la concrétisation passerait alors par la mise en œuvre d'instruments économiques ou réglementaires additionnels. Elle resterait, dans les termes de la théorie économique, une politique de quantité, mais dont la brutalité serait atténuée vers le bas par ce prix plancher, éventuellement vers le haut, par la mise en place de politiques de soupapes de sécurité qui limiteraient éventuellement les prix maximaux du carbone sur le marché mondial des quotas. Donc mes trois premiers commentaires portaient sur la logique de Kyoto, sur la logique des marchés de quotas et sur le débat sur la variable de contrôle, politique de prix, politique de quantité. Ce dernier débat est, comme vous l'avez compris, relativement technique. Je l'ai esquissé un peu rapidement, mais je pense qu'il faut l'évoquer parce qu'il est vraiment au cœur de la réflexion sur les institutions des politiques climatiques. J'en viens maintenant à ce qui est clairement le plus grave défaut du protocole de Kyoto. L'espace du marché carbone qu'il instaure est limité aux pays développés. Certes, aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre viennent d'abord des pays développés. 6 tonnes de carbone par tête et par an aux États-Unis, moins de 2 tonnes en Suède et en France, qui sont les meilleurs sujets européens. La Suède parce qu'elle utilise beaucoup d'hydraulique et la France parce qu'elle utilise beaucoup de nucléaire. Et malgré tout, moins d'une demi-tonne pour l'Inde. Mais la situation est en passe de changer rapidement. Le total des émissions des pays en développement, ceux qui ne sont pas dans l'annexe B, ou qui n'étaient pas dans l'annexe B, je mets dans les pays développés les États-Unis, dépassera dans un avenir proche celui des émissions des pays développés. Alors, lorsque j'avais écrit mon premier rapport au Conseil d'analyse économique en 2002 sur Kyoto et l'économie de l'effet de serre, on parlait pour la date de basculement, de dépassement des émissions des pays développés par rapport des pays en développement par rapport aux pays développés, on évoquait la date de 2025. Et puis on a parlé de 2015-2020, et maintenant on pense que ce dépassement aura lieu avant 2015. Et ce sera peut-être encore plus précoce si on extrapole la courbe que je viens d'esquisser. La situation va donc devenir critique. Les engagements sont dans l'annexe B, alors que paradoxalement, les décisions les plus stratégiques, en particulier certes portant sur le développement rapide d'un parc énergétique à longue durée de vie, qui a été évoqué hier, et les réductions les moins chères sont hors annexe B. Et bien sûr, les dispositifs existants pour comptabiliser des réductions effectuées hors annexe B et les mécanismes carbone évoqués par François tout à l'heure, et moi je pense à ce qu'on appelle les mécanismes de développement propre, les Clean Development Mechanisms en anglais, ne sont pas, malgré leur mérite, à la hauteur de l'enjeu. Il faudrait impérativement étendre ce que j'appelle métaphoriquement l'espace de la taxe carbone. Comment faire ? Alors, la solution intellectuellement la plus séduisante consisterait à ouvrir l'espace Kyoto aux pays en développement dans des conditions qui seraient acceptables pour eux. La position de principe des pays en développement est extrêmement claire et a priori décourageante. L'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, nous disent-ils, relève de la responsabilité historique des pays développés. Et les pays développés auraient épuisé un crédit cumulé d'émissions qui reste aujourd'hui ouvert pour les pays en développement. Et donc, même si l'on oublie cette revendication d'un apurement d'une dette écologique que les pays développés auraient contractée, c'était le sujet de l'exposé de Jon Elster ce matin, c'était la position brésilienne, il faut se rendre à l'évidence, les pays en développement ne sont pas prêts à payer significativement, plus encore à brider leur développement pour une politique climatique. Y a-t-il des solutions ? Oui, on peut imaginer que l'intégration des pays en développement dans un Kyoto rénové passe par l'attribution de quotas généreux, adaptés. Alors j'avais repris dans mon rapport au Conseil d'analyse économique certaines propositions faites en ce sens, soit des quotas suffisamment généreux pour n'être en fait non contraignants, soit des quotas unilatéraux qui peuvent être mis sur le marché mondial des permis quand la performance de réduction amène les émissions en deçà du quota, mais dont le dépassement n'implique pas de sanctions financières. En étendant au monde entier l'espace du marché carbone, ces propositions seraient susceptibles d'améliorer considérablement l'efficacité de la politique climatique. Elles impliqueraient aussi des transferts de ressources, éventuellement élevés, allant des pays développés vers les pays en développement. Mais elles seraient aussi des solutions gagnant-gagnant, les pays développés s'ouvrant, s'imposant évidemment des quotas plus stricts, mais s'ouvrant indirectement l'accès à des sources plus larges et beaucoup moins coûteuses de réduction. Alors cette solution que semble suggérer le bon sens, confortée par la théorie économique, est pourtant très problématique. Pourquoi ? Première raison, certains pays développés sont hostiles à la mise en place de solutions de ce type qui impliqueraient des flux financiers, en quelque sorte sans contrôle, vers les pays en développement, vers les pays en développement vertueux qui s'imposeraient des restrictions importantes et qui mettraient sur le marché leurs quotas excédentaires qui seraient éventuellement assez larges. Alors c'était en tout cas la position des États-Unis il y a quelques années. Deuxième raison qui relève de ce qu'on pourrait appeler l'effet de cliquet, enfin de ce qu'on appelait l'effet de cliquet dans la planification soviétique, enfin qui est réminiscent de cet effet, il est peu vraisemblable que les pays en développement acceptent une formule de quota généreux aujourd'hui, sans avoir l'assurance que la générosité d'aujourd'hui ne porte pas en germe la sévérité de demain, c'est-à-dire sans discussion sur les engagements et la cible à moyen terme. Sans accord sur les principes du partage de l'effort à moyen-long terme, qui fera revenir sur la scène les questions d'équité qui ont été évoquées ce matin par Lionel Serre, les questions de quotas par tête identiques, modérés par le PNB, etc., il est peu vraisemblable que les pays en développement acceptent des formules apparemment séduisantes pour eux que je viens d'esquisser. Alors j'ajouterai que ces formules sont sans doute pour eux beaucoup moins séduisantes qu'elles n'en ont l'air, pour les raisons que François a évoquées tout à l'heure, parce que le bénéfice qui peut en être tiré dépend beaucoup d'une aptitude qui est en fait souvent limitée à maîtriser en interne des instruments économiques disponibles. Que faire alors ? Il faut d'abord s'interroger sur la possibilité de politiques climatiques résolues au sein d'un espace limité de la taxe carbone. Alors, de même qu'il y a un peu moins d'un siècle, certains s'interrogeaient, les bolcheviques dans l'Union soviétique naissante, sur la possibilité d'édifier le socialisme en un seul pays. On peut se demander si une politique climatique dans un seul pays ou dans un seul bloc de pays a un sens. Alors, quand je parle de politique climatique, je pense à des politiques résolues, par exemple à ce qu'on appelle le facteur 4, c'est-à-dire l'objectif de diviser par 4 les émissions par tête en 2050 dans les pays développés. Alors, qui suppose l'instauration de taxes carbone au sens métaphorique important dans un espace limité. Ce sera des effets qu'on peut imaginer significatifs sur la compétitivité des industries qui y sont soumises. Coût de compétitivité qui viendra s'ajouter au coût interne de la politique climatique. Mais en l'absence d'un marché mondial du carbone, les avantages de cette politique peuvent être aussi considérablement affectés par ce qu'on appelle les fuites de carbone. Ces fuites de carbone résultent d'un double effet. D'abord, un effet compétitivité qui fait naturellement basculer la demande pour un produit vers les pays qui ont un faible standard écologique dans lequel ce produit est produit de façon moins coûteuse. Et d'autre part, d'un effet délocalisation qui amène un certain nombre d'industries ou d'établissements qui sont à l'intérieur de l'espace carbone à se délocaliser vers des pays à standard écologique plus faible. D'un point de vue strictement qualitatif, rien n'interdit que l'action du bloc vertueux, qui amoindrait évidemment sa compétitivité, n'accroisse pas la pollution globale. Ce serait évidemment un piètre bilan. Qu'en est-il dans les faits ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire quantitativement à la fois sur cet effet compétitivité et sur cet effet fuite de carbone ? Alors, pour la compétitivité des industries, elle serait affectée de façon très différenciée. Les calculs existants suggèrent qu'avec une tonne de gaz carbonique ou du dioxyde de carbone à 30 euros, ce qui correspond à peu près à 100 euros la tonne de carbone, qui est une valeur d'ailleurs assez faible, voire très faible par rapport aux objectifs de facteur 4, sur un marché industriel de quotas incluant l'industrie électrique, comme c'est le cas pour le marché européen, le prix du ciment en moyenne augmenterait de 115%, celui de l'acier de 30% et celui de l'aluminium de 18%. Ces chiffres ne doivent pas être pris avec la précision que je donne ne doit pas être surestimée, mais c'est des ordres de grandeur. Mais surtout, ces chiffres agrégés pour les industries reflètent des disparités considérables dans la gamme de produits. Donc l'effet compétitivité est donc significatif, même à ce niveau de la taxe carbone. Qu'en est-il de l'effet performance environnementale, c'est-à-dire de l'intensité des fuites carbone? Alors, nous ne disposons que de relativement peu d'études sur ce sujet. Je fais de la publicité pour l'une d'entre elles, qui concerne l'industrie du ciment, et qui paraîtra dans un ouvrage que l'MIT publiera l'année prochaine, et dont je suis co-rédacteur en chef, co-éditeur en anglais avec Henri Tulkins, et qui porte justement sur les politiques climatiques, un article qui suggère que l'effet fuite de carbone est potentiellement sérieux. Quoi qu'il en soit d'ailleurs de la réalité objective sur la compétitivité de la fuite de carbone, il faut bien comprendre que la conjonction de l'effet compétitivité et de l'effet fuite ferait peser ou fera peser un risque politique sur le soutien aux politiques climatiques dans les pays vertueux. Alors que faire ? Je parlerai brièvement sans prétendre, j'espère que la solution sortira toute cuite de Bali, mais je n'en suis pas sûr. Alors je parlerai brièvement sans traiter le problème au fond de deux solutions envisageables et actuellement envisagées. D'abord, ce qu'on appelle l'ajustement en frontières, et ensuite, ce qu'on appelle les accords sectoriels. Notons d'abord que le problème que je viens d'envisager, c'est-à-dire les effets internationaux contre-productifs de politiques climatiques à air limité, aurait une solution simple si l'on était capable de mettre en place dans les pays dits vertueux, dans les groupes de pays vertueux, une taxe au carbone ajouté, selon une mécanique de recouvrement qui serait analogue à celle de la taxe à la valeur ajoutée, et donc susceptible, comme la taxe à la valeur ajoutée, d'être détaxée à l'exportation et taxée à l'importation. Malheureusement, l'idée semble difficilement concrétisable. L'ajustement aux frontières est donc une sorte de substitut imparfait à cette taxe au carbone ajouté, difficilement concrétisable, je viens de dire. Il pourrait prendre diverses formes selon la formule retenue pour tenter de mimer d'un côté la détaxation carbone à l'exportation ou la taxation carbone à l'importation. En fait, c'est cette taxation carbone à l'importation qui pose les problèmes techniques les plus délicats. Problème technique, comment évaluer le contenu carbone d'un produit importé, en particulier parce qu'il peut varier considérablement selon le pays d'origine. Problème politique aussi, qui d'ailleurs fait écho à cet arbitraire de la mesure et renvoie aux règles standards de l'échange international qui sont régies par les accords de l'Organisation mondiale du commerce. Dans le cadre du marché européen, European Trading Scheme, qui assigne des quotas à une partie de l'industrie européenne et qui fait donc émerger un prix du carbone, un ajustement aux frontières qui rembourserait le prix du quota au moment de l'exportation et qui ferait payer un équivalent du coût de quota aux importations n'enfreindrait sans doute pas les règles actuelles de l'Organisation mondiale du commerce, mais cette formule ne fait sans doute pleinement sens que si les quotas étaient intégralement payants plutôt qu'être intégralement gratuits comme ils le sont aujourd'hui. Toute formule plus ambitieuse conduirait sans doute à remettre sur la table les règles qui régissent les aspects environnementaux du commerce, voire, c'est ce que j'avais suggéré hier, repenser le compromis global commerce-environnement, en y ajoutant éventuellement le développement, pour le XXIe siècle. Une autre piste de réflexion plus modeste concerne ce qu'on appelle les accords sectoriels, c'est-à-dire la mise en place d'accords sectoriels mondiaux s'appliquant, mais de façon qui serait pragmatiquement différenciée à tous les grands secteurs, hein, l'acier, le ciment, les raffineries, l'aluminium, la chimie, l'électricité. Il s'agirait alors non pas d'instaurer un marché mondial du carbone, mais des marchés mondiaux du carbone susceptibles de réunification ultérieure. Alors, la condition de la mise en place politique de ces accords sectoriels sont pour l'instant à tout le moins incertaines. La place que devraient y prendre États et organisations de producteurs est très loin d'être claire et sûrement très différente selon les secteurs. Les formes techniques de l'accord sont elles-mêmes assez ouvertes. Il peut s'agir d'accords sur les objectifs dans l'absolu, à la Kyoto, je dirais, ou sur des objectifs relatifs en termes d'intensité d'émissions, plutôt que de quantité totale. Et il faudrait évidemment faire face aux grandes différences entre les appareils productifs, selon les, pour appeler les crues techniques, problèmes souvent redoutables. Je vais terminer là l'esquisse du panorama que j'ai voulu présenter, sans chercher à conclure. J'ai simplement voulu donner une idée de la diversité des points de vue qu'il faut croiser pour évaluer la question de la conception des institutions climatiques, même si j'ai gardé un point de vue strictement économique. Mais vous avez bien vu qu'il y a beaucoup de questions géopolitiques qui sont apparues. La mise en place d'institutions efficaces de la politique climatique est un défi important qui est devant nous. Il y a le sommet de Bali aujourd'hui qui est en prise avec ce défi. Mais c'est un défi qui est devant nous et qui reste de l'aide dans la prochaine ou les prochaines décennies. La concrétisation au sein des institutions de politique climatique, au sein des institutions économiques climatiques, de la politique climatique efficace, restera, elle, un défi qui va sans doute dominer tout le XXIe siècle. Merci.
Merci Roger. C'est dommage que Pascal Lamy n'ait pas été là pour nous donner son opinion sur la façon dont l'OMC pourrait envisager cette TCA.
Tu en
as parlé avec lui, mais peut-être nous dire quelques mots sur la façon, parce que c'est à la fois quelque chose qui paraît de bon sens pour les profanes, le profane que je suis, les profanes que beaucoup d'entre nous sommes ici, mais qui en même temps pourrait valoir une opposition féroce, en ce sens que ça pourrait paraître aller à l'encontre du droit de la concurrence.
Oui, mais il se trouve que j'en ai touché un mot avec Pascal Lamy hier, après la conférence, un échange qui a duré 2-3 minutes au maximum. Grosso modo, j'ai posé la question, quelle est votre position à l'OMC sur... Sur cette question d'ajustement aux frontières. Alors, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Je dis, quelle est votre position sur l'ajustement aux frontières dans le cadre du marché de quotas européen, etc. Il m'a dit, ça dépend de la manière dont c'est fait. Et c'est une réponse qui me paraît... C'est la réponse que j'espérais. Je n'allais pas dire que j'escomptais, parce que je craignais qu'elle soit plus restrictive, mais c'est celle qui me paraît raisonnable. Je pense que si c'est fait de façon convenable, ça peut rester tout à fait dans l'esprit des accords standards de commerce, même si, évidemment, il y aura pas mal de résistance. Si malgré tout, ça modifierait quand même... Ça implique un changement de jurisprudence dans les règles de l'OMC. Mais enfin, on pourra y revenir tout à l'heure. Voilà brièvement la réponse de Pascal Lamy, en tout cas.